RVE 103.7, il est 10h, tout de suite, le point sur l'actualité de la semaine.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Alstom, argent, élection présidentielle, ce sont les sujets qui ont émaillé l'actualité de la semaine. C'est votre rétrospective de l'actu de la semaine. Alstom, bien sûr, le choc quand on apprend que l'industriel ferroviaire à Belfort, berceau historique du groupe, veut arrêter son usine de fabrication de trains. 400 emplois perdus et puis pour l'image, incroyable. Mais le fait est là que le constructeur ferroviaire Alstom ne vend plus de trains à l'étranger, plus de commandes, donc on ferme. Logique, logique industrielle, mais pas du tout logique électorale. À quelques mois de l'élection présidentielle, ce serait une fermeture catastrophique pour le gouvernement de gauche. Le Premier ministre a même été assez menaçant cette semaine. Je veux dire aux dirigeants d'Alstom qu'ils doivent oublier toute idée de fermer le site de Belfort. Nous travaillons sur la commande publique, assure-t-il. Ce que je demande, c'est la patience. On avait averti le gouvernement, ça fait 18 mois qu'on dit au gouvernement qu'il y a des difficultés sur le site de Belfort, rappelle Damien Mello, député maire UMP, Les Républicains de Belfort. Une bonne nouvelle industrielle tout de même est tombée cette semaine, c'est EDF qui va construire, ça y est c'est sûr, 2 réacteurs nucléaires EPR en Grande-Bretagne. À Hinkley Point, le gouvernement britannique a donné son feu vert. On a aussi parlé cette semaine élection présidentielle, on en parle de plus en plus évidemment. On risque la disparition de la gauche au second tour. On va dans le mur, déclare l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, qui souhaite que la gauche se présente unie dès le premier tour. La candidature de Taubira avait été pointée comme responsable de la disqualification de la gauche du second tour en 2002. Le lendemain, le Premier ministre Manuel Valls était sur le même ton, appelant la gauche à arrêter la machine à perdre devant les députés socialistes. Si on ne bouge pas, la gauche disparaîtra, dit-il. Et le surlendemain, troisième jour, un sondage donne raison à tout ce petit monde. Selon ce sondage BVA, la gauche éliminée de l'élection présidentielle au soir du premier tour, dans tous les cas de figure, quel que soit le candidat de la gauche, quel que soit le candidat de la droite, c'est Marine Le Pen et le candidat de droite qui parviendrait au second tour. La campagne se jouera-t-elle sur le pouvoir d'achat, sur l'identité, sur le terrorisme, sur les migrants? On ne sait pas, en tout cas, sur le pouvoir d'achat, c'est toujours là. Un Français sur 5 est dans le rouge tous les mois et un Français sur 4 ne boucle pas ses fins de mois selon le baromètre Cofidis CSA. Les Français ont besoin de 464 € de plus par mois pour vivre confortablement. En tout cas, leur pouvoir d'achat ne s'améliore pas. En tout cas, leur pouvoir d'achat ne s'améliore pas. Lui, il était pas vraiment dans le rouge, enfin, pas dans le rouge financièrement, mais dans le rouge d'un point de vue de la légalité. C'est Jérôme Cahuzac. Son procès se tenait cette semaine, le procès de l'ancien ministre qui a menti, qui a triché, qui a caché de l'argent au fisc. Je voulais maintenir le train de vie de ma famille, a-t-il justifié. Quant à son ex-épouse, elle a affirmé que tous deux étaient conscients de l'illégalité de ses pratiques fiscales. Le procureur a demandé 3 ans de prison ferme. C'est le juste prix de la trahison pour avoir sacrifié tous les principes à l'appât du gain. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez un très bon week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, 10h03, la météo, ça arrive. La voici tout de suite avant de retrouver Philippe et l'émission Tribune Sport. La météo pour aujourd'hui, temps nuageux avec quelques belles éclaircies quand même. Ouais, des températures de 18 à 19 degrés, normalement pas d'averse de prévu. Voilà, bref, une belle journée qui s'annonce.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On était revenu la semaine dernière sur la finale de l'Euro, sur le Tour de France, agrémenté d'interviews concernant le Critérium Cycliste de Longjumeau. Eh bien, on va continuer avec le retour en arrière sur les gros événements sportifs de cet été. Et ce matin, ça va être le must avec les Jeux de Rio. Et notre invité, Étienne Bonamy. Étienne, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, ça fait un petit moment. Hein.
Exactement.
Hein, mais... Voilà. Donc vous avez eu le privilège, vous, d'aller sur ces Jeux de Rio. Hein. On aura aussi bien le témoignage de notre ami Bernard, qui lui a tout suivi détail par détail devant son poste. Ça va Bernard?
Ça va.
Bon. Ouais, pleine forme. Et puis on va saluer Arnaud ce matin, qui nous fera un petit point sur les Jeux Paralympiques qui se terminent donc ce dimanche. Salut. Bonjour, Arnaud. Philippe. Ça va?
Nickel. Ouais.
Alors... Étienne, ces Jeux de Rio, qu'est-ce qu'il en reste presque un mois après? Ça a été des Jeux que les Brésiliens méritaient?
Ah oui, de toute façon, lorsque vous avez l'organisation des Jeux, vous la méritez. Mm-hmm. Après, savoir comment vous pouvez réaliser entre l'obtention de la ville, l'obtention de l'organisation et le moment où vous le faites, il se passe 7 ans. Donc, comment vous pouvez faire tout ça, ça c'est... souvent un problème, on l'a vu dans le passé, y compris pour des villes importantes. Je me rappelle des Jeux à Atlanta, on ne peut pas faire mieux, c'était chez Coca-Cola et chez les Américains. C'est pour l'instant les pires jeux que j'ai vus en question organisation. Vous voyez, c'était beaucoup, beaucoup plus mal organisé à Atlanta que ça ne l'était à Rio. À Rio, les Jeux, les compétitions elles-mêmes étaient bien organisées, parce qu'il faut rappeler que les Jeux Olympiques, chaque compétition est organisée par les fédérations internationales, c'est-à-dire le tournoi de judo olympique, c'est comme un championnat du monde, il appartient à la fédération internationale de l'organiser. Donc tout ceci fonctionne bien. Il est en charge du comité d'organisation pour respecter la charte du comité olympique d'organiser, c'est-à-dire d'avoir des installations. Elles étaient, on va dire, convenables. Elles étaient convenables. Elles ont été livrées un peu tard, ce qui a provoqué des problèmes, mais elles étaient convenables.
Mais il paraît que c'est dans la méthode brésilienne de toujours tout travailler à l'arrache. Comme
mais c'est dans la méthode à Sochi. On est arrivé trois jours avant. Ils tapaient encore les clous pour terminer les derniers travaux partout. Le problème pour les Jeux, c'est que lorsque une ville les obtient, 7 ans avant, la première chose qu'elle se dit, c'est que ça va changer le paysage urbain, ça va changer tout le système de vie des gens. C'est bien parce que ça attire des fonds, ça attire des marchés. Il faut savoir qu'à Rio, il y avait beaucoup d'entreprises françaises, européennes et nord-américaines qui sont venues travailler là-dessus, qui sont venues construire des sites sportifs, évidemment, mais qui sont venus construire le métro, qui sont venus faire la voirie, qui sont venus faire tout ce qui était électricité, eau, dans... Ça a complètement changé la vie. En même temps, la crise, alors que c'était un pays en pleine expansion avec une croissance à deux chiffres, c'était un pays qui a connu une récession énorme. Donc évidemment, lorsque vous avez de l'argent en 2007, et qu'en même temps vous organisez la Coupe du Monde et que vous construisez des stades et que vous faites tout ça et que d'un seul coup le robinet la banque il est fermé, vous vous retrouvez avec plus d'argent. Ça a été le problème, c'est qu'ils ont été obligés de, pour économiser de l'argent, d'enlever un nombre important de volontaires qui peuvent participer à l'animation et à l'organisation. Et puis surtout, moi c'est la première fois que j'ai vu une ville où il y avait aussi peu d'animation autour des jeux, c'est-à-dire que vous quittiez un site, vous tourniez le pâté
c'était
de maison,
fini,
il n'y avait plus rien. Ça, c'est dommage. Voilà.
Donc, combien de jeux à votre actif, Étienne, déjà?
J'en suis à 8 ou 10, 9 jeux d'été et d'hiver compris.
D'accord. On a senti quand même qu'il y avait un enthousiasme de la part des Brésiliens, parce que bon, le Brésil, c'est un pays de foot, hein. On y est allé pendant le mondial, c'est pas forcément un pays de sport.
Voilà. Le problème du Brésil, c'est même le problème de l'Amérique du Sud. Oui. C'est un sous-continent sur lequel il ne se passe rien, à part le football. Voilà. Y a pas de championnat du monde, y a pas de championnat du monde d'athlétisme, y a pas peu de championnat du monde de grandes compétitions. Si bien que le public brésilien, comme le public argentin, etc., il ne voit pas passer les meilleurs. Il n'est pas, la ligue de diamants d'athlétisme, elle tourne partout, elle tourne en Asie, elle tourne en Europe, elle tourne en Amérique du Nord. Elle passe pas, il n'y a pas deux meetings, un à Rio et l'autre à Sao Paulo ou à Buenos Aires. Donc, ils n'ont pas cette culture du sport. Le volley, énorme. Le football, énorme, évidemment. Et après, ils ont des champions, ils ont des Brésiliens. En judo, ils ont des médaillés en judo. La perche, ça c'était une surprise. Même si c'est un bon perchisme, mais là c'est une vraie surprise. Après, ils ont des champions un petit peu partout. Mais pour le public, ils n'ont pas cette culture du sport, si bien qu'ils n'ont pas ce côté passionné. Vous faites à Londres, vous aviez les qualifications d'aviron le matin. Il y avait 20 000 personnes parce que l'aviron en Grande-Bretagne c'est quelque chose. Le cheval à Londres, 55 000 personnes. Tous les jours, même pour les premiers tours, c'était réservé depuis un an. À l'aviron, à Rio, vous y allez, le matin, il y avait 1000 personnes, dont 850 visiteurs étrangers. Et les autres, c'est pas leur...
L'a vu, nous, devant la télé, qu'il y avait des manifestations sportives où les tribunes étaient pratiquement vides.
Mais ils ont fait beaucoup de... Sans doute trop tard, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens... Enfin, ils ont pas voulu mettre les moyens là-dessus. Ils ont fait beaucoup de campagnes pour dire aux gens, venez voir, venez découvrir le taekwondo, venez découvrir l'aviron, le canoë-kayak. Voilà, c'est des sports qu'ils ne pratiquent pas. Donc les gens, du coup, c'est pas facile. En France... En Europe, on va dire, on voit tellement de compétitions, on est tellement engagé, les télévisions en montrent. D'un seul coup, vous dites, tiens, il y a des championnats de France, il y a des championnats du monde de tennis de table, on va aller les voir. Eux, tennis de table, non, c'est pas leur truc.
Est-ce que le prix des places n'était pas un petit peu trop élevé quand on voit qu'au coup d'envoi des Jeux de Rio début août, il restait 1 milliard de places.
Un million.
1 million de places, excusez-moi. Alors, est-ce que quand on voit que, par exemple, une compétition de, d'équitation, c'était un minimum de 35 euros, et pareil pour le volley, pareil pour le foot, et de voir des stades aussi vite, c'est pas par rapport au prix des places?
Alors, le problème, c'est que le cahier des charges nécessite d'avoir des enceintes assez importantes. Par exemple, toutes les Carioca Arena, bon, c'est 9000 places, 9500 places, comme c'était à Londres, comme ça sera à Tokyo. Donc évidemment, du judo dans 9500 places, on va dire il y avait 4000 visiteurs, 4 à 5000 visiteurs étrangers, français, allemands, japonais. Le reste, il faut que ça soit la population locale. Cher, ils avaient fait un plan avec des prix spéciaux pour le Brésil. Et il y a 2 mois avant les Jeux, ce prix-là qui était la moitié moins cher que le prix pour le public, non brésilien, c'est-à-dire le public étranger, vu qu'ils ne remplissaient pas, ils l'ont ouvert à tout le monde. Sauf que c'était un peu tard au mois de mai. Vous êtes passionné de judo, vous dites oh là là, faut que j'y aille, la place elle est à 150 euros, mon billet d'avion. Si on vous dit au mois de mai la place elle est à 25 euros, c'est pas évident qu'au mois de juin vous réservez un billet d'avion et tout ça. En revanche, moi j'ai rencontré beaucoup de spectateurs français ou francophones ou même étrangers qui eux ont été avertis sur place qu'ils pouvaient bénéficier des tarifs. Et donc, ils allaient voir énormément de compétitions parce qu'ils se sont dit, bon, on peut aller voir du volley pour 25 euros. Moi, il y a des gens qui allaient voir pas la finale, mais qui allaient voir de l'équitation pour 30 euros. Moi, j'étais surpris. L'aviron, c'était 20 euros les premières places pour les finales, ce qui n'arrive jamais. Moi, le soir du 100 mètres, au stade olympique, le soir du 100 mètres, vous pouviez acheter des places au guichet. Les premières étaient à 35 ou 40.
Pour le 100 mètres.
Pour le 100 mètres. Le stade n'était pas plein. Donc là, on était 3 journées, on s'est dit, bon, comme on voyait à chaque fois des gens au guichet, voilà, imaginez la finale du 100 mètres au Stade de France en 2024, avec des gens, pas 3 personnes, mais voilà, c'est marqué place à vendre. Et c'est assez étonnant. Mais je vous dis, c'est à la fois leur manque de culture, et puis c'est un pays. Ben voilà, s'il y a le drapeau, on est très cocardier, donc on va aller derrière. Voilà,
on l'a vu pour la Vilénie, il y a eu des reproches en disant, bah oui, c'est pas un public de sport.
Mais en même temps, pour la Vilénie, ils ont vraiment encouragé, enfin, ou sifflé la Vilénie, mais surtout pris parti pour Thiago Brás. Et quand ils ont découvert que dans les 3 derniers qui restaient en lice, il y avait un Brésilien avant. Franchement, ils connaissaient pas le règlement, ils connaissaient pas le principe du concours, si bien qu'ils applaudissaient. Mais sans plus.
Dans un stade 3/4 vide.
Ah oui, ça c'est. À leur décharge, ce jour-là, bon, on était en hiver.
Il pleuvait là-bas.
Mais bon, il pleuvait. La compétition a été interrompue. C'est vrai que très souvent, les gens, quand c'était long, le Brésilien, il est. Je ne peux pas dire, non, mais il y a une forme de nonchalance dans. Même dans les transports. Le bus n'arrive pas, il y a une file d'attente. C'est pas grave. Et il s'impatiente très vite. Les 2 premiers jours. Les organisateurs, moi je l'ai vu, les gens pour rentrer pour des raisons de sécurité, il y avait les sas comme on voit maintenant. Donc là où vous auriez passé 3 minutes, la fouille c'était 3 quarts d'heure parce qu'il y avait 10 000 personnes. Bon, les gens ils faisaient demi-tour.
Voilà, demi-tour. C'est vrai que certains confrères sur place l'ont dit, les transports c'était catastrophique.
Oui, non. Alors voilà, ça c'est bien de poser la question. Oui, non, parce que pour les Brésiliens, pas du tout.
Ah oui,
je vais t'expliquer. L'écho des transports vient surtout des journalistes, et je me mets dedans, puisque au jeu, il y a des voies réservées pour un transport interne aux athlètes et à toute ce qu'on appelle la famille olympique, c'est-à-dire les officiels, la presse, les dirigeants, les entraîneurs, tout ça. Donc vous avez un système de navette que vous prenez sur les sites qui n'appartient qu'à cette famille olympique. Et là, il y a des voies dédiées. Donc tous les journalistes voyageaient par ça. Et là, pour avoir le nombre, je sais pas, il y avait 600, 700 autocars, pour avoir ça, forcément, ils ont pris des chauffeurs de tout le pays. Donc il y avait des chauffeurs qui connaissaient pas l'agglomération de Rio, qui est une vraie... Paris, c'est peinard. Donc ils se paumaient. Donc l'écho des confrères a été de dire, c'est un bazar, c'est vrai, vous preniez une navette pour aller d'un endroit à un autre. Un jour, vous mettiez 20 minutes, le lendemain, vous mettiez 2 heures. En revanche, moi qui ne logeais pas vers le parc olympique, mais qui avait un appartement, j'ai pris les transports en commun, c'est-à-dire le bus et le métro. ça partait à l'heure, ça arrivait à l'heure, jamais eu de soucis. Donc les Brésiliens, ils voyageaient par leurs propres moyens, ils n'ont jamais eu de soucis, jamais eu de soucis. Les embouteillages, c'était vraiment, ça affectait les sportifs et les journalistes, la famille olympique.
Et sinon, pour le reste, au niveau sécurité, pas de problème. Et au niveau média, on a pu travailler correctement.
Oui. Alors, tout était. Il y a une. Là aussi, il y a un cahier des charges très strict.
Bien sûr.
Ça doit. Internet doit fonctionner. Ça fonctionnait par moments moyennement parce qu'ils ont fait beaucoup de sites mobiles pour accueillir la presse plutôt que de construire. Ils avaient raison. Sauf que voilà, vous amenez à ce moment-là, vous amenez des connexions externes, vous amenez du Wi-Fi, tout ça. Et puis d'un seul coup, vous faites 100 places et vous avez 350 journalistes qui arrivent. Donc quand tout le monde travaille en même temps, il y a un peu de réseau bouché. Mais globalement, ça fonctionnait aussi bien que ça fonctionnait à Londres, aussi bien que voilà. Il y a des petites péripéties par moment, mais c'était pas un problème. Et question sécurité, moi je logeais dans le quartier de Botafogo, qui est dans le centre de Rio. Voilà, c'est jamais eu. Mais c'est comme tout. Vous dites aux étrangers, qu'est-ce que vous aimez comme avenue à Paris? Les gens vous disent les Champs-Élysées. C'est là, je crois, la troisième rue la plus dangereuse de Paris. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'on compte le nombre de pickpockets, d'agressions, de gens qui se font piquer le portable. Si vous résumez ça à des chiffres, oui, Rio est une ville dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tirer leur portefeuille, braquer, tout ça. D'où l'exagération après de gens qui disaient, voilà, on peut pas sortir. Franchement, on terminait de travailler tard le soir, et on rentrait, il était 1h du matin dans des rues. Voilà, vous n'allez pas non plus tenter les gens. Si vous allez sur la plage de Copacabana, même quand il y a du monde, avec une montre et que vous laissez tout ça sur le sable, il y a 100 chances sur 100 de vous faire voler. Vous faites la même chose à Deauville, il y a 100 chances sur 100 de vous le faire voler aussi. Donc, on sent qu'il y a de la tension. Bon là, il y avait des policiers, il y avait partout. Il y a de la tension, sans doute. Oui, mais il n'y a pas eu une recrudescence de violence. Sauf que quand vous avez d'un seul coup 10 000 journalistes et des athlètes et tout au même endroit, le moindre fait. Il prend de la valeur. L'histoire des nageurs américains qui ont mis en scène elle a pris de l'écho parce que Ryan Lochte, il le dit, en plus il ment, mais voilà, l'affaire prend de l'ampleur d'un seul coup. Moi j'ai vu des gens, ils sont montés dans un taxi, ils discutaient dehors, le taxi est parti. Il criait, on vient de se faire braquer, il était 11h du soir, il sortait, on vient de se faire braquer. Le taxi s'est arrêté 100 mètres plus loin. Il y a eu le patron du resto est sorti, pataquès. En fait, comme le chauffeur était brésilien et ne parlait que portugais, les gens parlaient devant, il avait ouvert la porte, il a cru qu'il montait pas. Sauf qu'ils avaient déjà mis un sac à main ou je sais pas quoi. Donc, il est parti. Il a claqué la porte, il est parti, mais pensant qu'il prenait pas. Et les gens pensaient qu'il partait parce qu'il leur avait piqué son sac. Voilà.
Et pour le reste, donc vous étiez au centre de presse, Étienne, facile cet éparpillement des sites, de bien travailler?
Pour travailler, une fois que vous êtes sur les positions, là, c'est le point noir. Le point noir. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment le CIO a pu attribuer les jeux à Rio sur le principe de compacité des sites. On en parlera tout à l'heure, on en parlera. Parce qu'eux, ils veulent toujours que ça soit très, très proche. Et franchement, je connais bien Rio pour y être allé plusieurs fois au reportage avant. Et quand je voyais là où c'était, je me disais, mais où y a-t-il de la compacité? Imaginez des jeux qui, en termes d'éloignement, auraient fait le centre olympique du côté de Mantes et par rapport à Paris. Vous voyez, donc le Barra de Tijuca, c'est déjà 35 km. 35 km tout court. Vous rajoutez la circulation pour les gens qui y vont, vous rajoutez le métro. La compacité pour moi tout est à moins de 10 km. Là, il y avait des choses que je parle pas du football qui est délocalisé, mais il y avait des sites qui étaient vraiment déjà loin géographiquement. Ça ajoute des risques de retard, de ceci. Après sur les sites pour travailler, comme dit Arnaud, c'est moi ça me peine de voir un stade olympique à moitié vide, voilà. Et ça peine aussi quand il y a le record du monde du 400 mètres que Van Niekerk bat, qui est le record mythique de Michael Johnson, et qu'en fait, les gens qui ont applaudi, bah, c'était les gens qui aiment l'athlée. Et nous, en tribune de presse, on disait c'est incroyable. La moitié du stade, même pas pigé. Pourtant, il y a un chrono, même pas pigé que c'était un exploit rarissime. On a vu des performances en athlétisme rarement au jeu.
Oui.
Voilà,
des records du monde de battus dans les Jeux Olympiques, il n'y en a pas souvent. Hein.
Et des records olympiques, le concours à la perche, c'est le plus beau concours à la perche de l'histoire. Gens, ils ont applaudi parce qu'il était brésilien, ils n'ont pas applaudi parce que c'était 6m03.
Mm-hmm. Bernard, les Jeux, tu as suivi donc à la télé, tes premiers commentaires.
Oui, ben moi, j'ai eu des coups de cœur, là, la victoire du Brésil, la revanche de Neymar
contre
l'Allemagne, c'était sympa. Les 9 médailles d'or du Seinbolt, c'est vraiment.
On va en reparler aussi.
Toujours là. Le courage un peu fou de Johan Diniz, 50 km marche. C'est vraiment. Il avait loupé les deux jeux précédents, il voulait absolument finir celui-là. Mais j'espère qu'il va continuer, Johan Diniz. Peut-être qu'on le verra au prochain.
Les marcheurs, j'allais dire, leur carrière sportive s'étire, donc on peut espérer.
Il y a Phelps, l'américain Phelps à la natation, là. Il a eu au total de tous ses jeux 23 médailles d'or.
Et 28 médailles au total et 23 d'or.
Et ce qui était sympa, les îles Fidji, de rugby à 7, la championne olympique, une petite île comme ça. Puis alors une déception de nos footballeuses quoi, qui ont encore échoué en quart de finale. Hein. C'est dommage.
Alors Étienne, Phelps, Bolt, c'est les deux gros héros de ces jeux?
Oui, c'est d'abord Bolt.
Trois fois triple champion olympique.
Faut vraiment se dire, c'est sur 12 ans.
Longévité de sa carrière.
Donc, sur 8 ans, 8 ans, être toujours le premier. Je sais pas par moment si les gens se rendent compte de parce qu'il court. Bon, cette saison, il a peu couru à cause de ses blessures. Mais d'être toujours devant, c'est-à-dire les championnats du monde, les meetings, c'est Bolt, les gens le voient courir pour qu'il gagne. D'ailleurs, c'est une star au Brésil. Les gens l'adorent parce que ça symbolise la victoire. Un gars qui est toujours obligé de courir. Il n'y a pas un sport. Teddy Riner est dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, le gars, il vient, il va faire les éliminatoires, les quarts, les demi, donc il va faire 4 courses. Et il est obligé de gagner. Mais quand il va faire la Ligue de Diamants, les deux meetings, les gens ils viennent le voir gagner. Si Bolt, le jour où Bolt est deuxième dans un meeting, les gens vont le siffler, vont dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est dur.
C'est quelqu'un de très charismatique.
Il en joue énormément. Le faire. Il n'a pas besoin de se forcer pour avoir. Il a créé un modèle de champion, beaucoup plus que Phelps.
Oui, parce qu'il paraît qu'il n'est pas très sympa avec les journalistes, Phelps.
C'est pas qu'il n'est pas sympa, c'est que Phelps, il avait arrêté, il est revenu. Phelps, il est moins lisse que Bolt. Bolt, on connaît pas assez. Oui. Mais Bolt, il est, d'abord, pour beaucoup de gens, il n'est pas américain, donc c'est pas que de l'argent, alors que c'est quand même le sportif au monde le mieux payé. Mais les gens disent pas Phelps trop payé, ils disent Phelps, regardez, c'est la Jamaïque, il rigole, il joue au foot, dès qu'il est en représentation, il rigole, il fait le show, il a fait une conférence de presse avec danseuse brésilienne exceptionnelle. Alors, les puristes vont vous dire, mais on n'attend pas Phelps pour qu'il nous fasse un show de trois quarts d'heure. Mais quand vous regardez ça avec une certaine distance, vous dites, c'est incroyable, comment peut-on. Voilà, la distance, enfin pas la distance, mais l'ambiance et la mise en scène qu'il fait, ça avait agacé l'ancien président Jacques Rogge lorsqu'il faisait la foudre et tout. Mais ça contribue aussi à un côté, voilà, on veut voir du spectacle. Phelps, il est pas là-dedans. Mais bon, ça reste. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus détendu là, parce qu'il revenait. Donc, comme toujours, quand les champions reviennent, ils disent oui, je reviens pour le plaisir, j'en ai rien à faire, si je gagne pas, c'est pas grave et tout. Quand on est Phelps, on revient pas pour perdre. Et je l'ai trouvé dans les conférences de presse, et même après, il rigolait. Bon, il a eu un enfant, il sait qu'il revenait pour s'arrêter, donc. C'était plus détendu, mais c'est pas le même personnage. Et puis, je pense qu'aux États-Unis, on lui permettrait pas de. Les partenaires, tout ça, il faut qu'il y ait l'image du champion, il faut qu'elle soit un peu encadrée. Alors que Bolt, qui fait ce qu'il veut.
Et puis, naturellement, côté français, Riner, double champion olympique, il va tenter la passe de 3. Il a comme défi d'aller battre les Japonais chez eux en 2020. Alors,
voilà. J'allais dire, heureusement, c'est au Japon, c'est au Japon dans 4 ans. Je pense que si ça n'avait pas été au Japon, je sais pas s'il aurait pas été. Alors, je dis pas qu'il va aller au Japon dans 4 ans, mais tout de suite, les questions qu'on lui a posées, c'est de dire, voilà, alors, faut terminer sur, d'abord parce qu'il n'est pas vieux, et faut terminer en allant gagner le titre au Japon. Et lui-même a dit, mais j'y pense, parce que voilà, c'est comme un footballeur qui dirait, j'irai gagner la Coupe du Monde au Brésil. Voilà,
ouais,
c'est un objectif.
Mm-hmm.
Voilà,
il a fait. Ok, allez, une petite page de pub, la pause musicale, et puis ensuite, on va parler des satisfactions et puis des déceptions aussi côté français.
Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre.
Nous sommes devant le 3008, un crossover résolument contemporain. Avec navigation, toit vitré panoramique et caméra de recul, du très grand Peugeot, à tout petit prix.
Pendant les immanquables Peugeot, le 3008 allure suréquipée est à partir de 229 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com.
Portes ouvertes ce week-end chez Peugeot Nova Automobile, à Rambouillet et à Dourdan.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry Pontin.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. sur terre. Encore hier. Encore un soir. Encore une heure. Encore une larme de bonheur. Une faveur. Comme une fleur. Un souffle. Une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir.
Région avec RVE.
Voilà l'émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast, hein, tout comme celle de la semaine dernière, dès cette semaine. Étienne, il a fallu gérer le problème des réseaux sociaux, c'est important, hein, on en parlait donc hors antenne.
Oui, il y a une loi dans la charte olympique qui s'appelle la loi 40, qui interdit aux athlètes et aux sponsors d'utiliser et de communiquer pendant les JO. Mm-hmm. Jusqu'en 2012, tous les comptes sociaux des athlètes, ils n'avaient pas le droit, des grosses consignes de leur comité national olympique en disant t'as pas le droit, sinon il y avait des amendes, ou voire même des exclusions. À Londres, il y a eu des athlètes qui ont été exclus. Et là, à Rio, c'est la première fois que j'ai vu, vous regardiez, vous étiez dans le stade, j'étais à la finale du 100 mètres, vous étiez dans le stade, et 5 minutes après la finale du 100 mètres, je descendais pour aller... parler à la mix zone pour récupérer
des interviews
et je regardais mon compte Twitter et Facebook et vous voyez alors des gens que je connais pas qui avaient tout le monde avait filmé, ça a explosé. C'est bien que le CIO, on peut pas aller contre l'évolution technique, c'est même pas une histoire de progrès, c'est que vous pouvez pas dire aux gens laissez votre smartphone à l'entrée et pas le droit. Nous, la presse, pour la première fois vraiment, ils nous ont mis une pression énorme, presse écrite, pour toujours encore défendre les droits des diffuseurs payants, c'est normal. Mmh. Donc, dès qu'on sortait un smartphone pour faire une interview, n'importe quoi, pour répondre à un texto, c'était « Oh là là, vous n'avez pas le droit de filmer, c'est interdit. » Et moi, j'étais surpris de voir comment les athlètes n'arrêtaient pas de mettre en scène au village olympique, dans les bus, partout. Le comité national olympique, en 2012, c'était encore rien, voilà, pas un pas de travers. Là, c'était des vidéos tout le temps. Les compétitions, on voit bien que le CIO réfléchit. Et je pense qu'en 2020, on aura, en plus, 2020, on va être dans le pays de monsieur, enfin, dans le continent de monsieur Samsung. Ouais. Donc, pays, puisqu'ils sont coréens, mais dans le continent de monsieur Samsung, je pense que la connectivité, la téléphonie, les réseaux, ça va être plein tube. Et donc, si c'est plein tube, le CIO a 4 ans pour réfléchir. Parce que même les télévisions en pâtissent, France Télévisions et surtout le NBC, le network américain, ça chute parce que les gens, ils regardent ça. Vous voyez un match de foot, vous ne savez pas s'il va faire 0-0, il est au milieu de la nuit, vous n'êtes pas là. Si vous êtes sûr que, en allumant votre téléphone, vous avez le pénalty victorieux de Neymar, vous avez les 10 secondes, ça vous suffit, vous regardez ça. Voilà. Mm-hmm. Et ça leur a, ça, les télévisions, donc ceux qui payent, ils ont très très vite analysé que le phénomène des réseaux sociaux, c'est pas l'anticiper, mais le gérer. Donc le CIO commence à, via YouTube, mais via d'autres, à lui-même alimenter, parce qu'il se dit, l'exposition, les partenaires, ils payent très cher, mais si. si vous n'avez plus d'exposition quelque part, il vaut mieux anticiper son contrôle que de subir tout ça. Ça, c'est la grosse révolution sur ces jeux-là.
Alors, bilan sportif maintenant pour les Français. 42 médailles, c'est le record. Ça veut dire que la France, c'est un pays complètement sportif. On dit qu'on juge souvent une nation à travers ses médailles ramenées au jeu.
Oui. De toute façon, c'est un bon bilan. Alors, quand on fait un bilan, on commence par les titres. Et puis, l'or, l'argent...
C'est bien d'être sur les médailles d'or. Certains ont dit, dans des émissions, on aurait dû faire par le nombre d'habitants divisé, parce que avec une seule médaille d'or, on va être devant un pays qui va ramener 15 médailles d'argent.
Oui, mais
quoi.
Voyez, la Thaïlande, ils doivent envoyer 30 athlètes.
Oui, c'est ça.
Ils envoient 30 athlètes, ils ont 6 médailles. C'est extraordinaire. Si la France envoie une délégation, je crois que c'est 396.
Oui, 300, oui.
Donc, faire un ratio entre le nombre de médailles... Ça n'a rien à voir. Il y a des pays, ils font trois sports. Ils font le taekwondo, ils font des sports qu'ils peuvent organiser qui ne coûtent pas cher, où les fédérations internationales leur donnent un coup de main. Voilà, le Niger n'a pas vocation à avoir de l'aviron, de la voile, tout ça. Donc ça ne veut rien dire. Personne n'est obligé d'être représenté dans tous les sports. Puis les petits pays, les petites nations en termes de sport, quand ils ont 3-4 champions, ils misent que là-dessus. Donc, le bilan français, il est bon. Ouais. Ce qui est étonnant cette année, c'est qu'il y a eu quelques ratés importants. Bernard en parlait que le foot féminin n'ait pas eu une médaille. C'est assez surprenant.
Ouais. Ça fait quelques...
des explications.
Ouais.
Mais c'est surprenant. Ils ont un potentiel. C'était à Londres surtout qu'ils ont raté la demi-finale. Mais ils ont le potentiel pour avoir une médaille, pas pour le titre, parce qu'il y a vraiment trop fort. Il y a eu quelques sports qui ont déçu. Le tennis, il y avait le potentiel d'avoir au moins une médaille avec les doubles ou les simples.
On les a pas sentis très concernés, Étienne, nos tennismans. Et puis, même pas les Français.
J'allais dire que cette année, le tournoi de tennis... après, il ne faut pas dévaloriser les champions qui étaient là-dedans. Mais il y avait ce sentiment que... où il était mal placé, où les gens ont d'autres objectifs, où il y avait, pas seulement pour l'affaire père, mais on n'a pas vu j'ai l'impression que les champions, une fois qu'ils ont, ça a été le cas de Nadal, ça avait été, Federer, c'est autre chose, mais ils viennent tous chercher une médaille, parce qu'à un moment, les Jeux Olympiques, mais une fois qu'ils l'ont eu, c'est-à-dire 4 ans après revenir dans cette histoire-là, j'ai pas senti.
Ouais, ça représente pas le Graal pour eux. Le Graal, quoi.
C'est important. Mais le tennis, c'est au-delà de la France. J'ai trouvé que c'était un peu. C'était pas péchu. Après, ça aurait été bien que la France en basket puisse faire quelque chose.
Oui. Alors, sport co, il y a nos deux équipes de hand.
Il y avait 8 équipes sport co. Alors, il y en avait une qui avait aucune chance. C'était le waterpolo. S'ils ont été, on va dire, généreux dans l'effort. Le volleyball, ils étaient dans le groupe le plus difficile des deux. Ils sont tombés contre. J'étais au match, ils sont tombés contre le Brésil. Il y avait pas photo.
Au Brésil en plus.
Et au Brésil. C'était top. Après, il y a des
bonnes surprises. Il y avait nos deux équipes de rugby à 7.
Oui, c'est pas passé loin le rugby. Mais c'est pareil, le rugby à 7, c'est un modèle vraiment fait pour les Fidji, tout ça. C'est quand Bernard Lapassé a fait le lobbying en 2008 pour. Comme il était président de l'IRP, il a fait le lobbying pour que le rugby entre. Et donc le rugby à 7 seulement, évidemment, c'est le seul modèle qui peut fonctionner là-bas. Il y avait, dans son discours, c'était de dire que ça va permettre à des petits pays, comme le Kenya, des petits pays de rugby, de venir. Le but du jeu, c'est pas de dire, tiens, ça va être la mainmise des Néo-Zélandais ou des Britanniques ou des Français. Et donc, ces pays-là ont vraiment préparé ça dans les Coupes du Monde les World Sevens. Ils sont vraiment préparés pour ça. En France, il n'y a pas un championnat de France de rugby à 7, ni homme ni femme. C'est des gens du 15 qu'on prend. Je pense que dans 4 ans, même si c'est à Tokyo et que les Japonais ont ont cette culture-là, je pense que ce sera mieux parce qu'il y aura... Il y aura un peu plus d'accoutumance à ce sport-là, à cette pratique-là. En France, C'est un peu par défaut. C'est, imaginez que y ait le foot à 5 soit au jeu et qu'on se dise, bah tiens, ouais, on va aller prendre un joueur du PSG, puis un joueur
de Dijon. Ou alors le beach soccer un jour.
Oui, le beach soccer. Et vous dites, bah, ça serait bien qu'il y ait des anciens footeux qui viennent là-dedans, mais vous êtes plus pro, vous venez chez nous, on vous paye. Voilà. Et puis, moi, surtout, il y a de belles surprises, le tir à l'arc. Enfin, quand je dis, c'est des gens qui ont le niveau, mais des Français de niveau mondial, il y en a tout le temps. Et après, au JO, c'est pas évident. Et là, au tir à l'arc, qu'ils ont l'équitation évidemment. Voilà, il y en a plein qui ont fait des
ça, c'est bien, c'est le renouveau. Hein. Puis il y a l'histoire donc des
meilleurs scores, c'est la boxe quand même.
Oui, alors en plus justement.
Et la boxe.
Hein. L'argent, de bronze.
Mais j'allais y venir.
Oui, justement, on allait en parler. Ça, c'est les grosses satisfactions. Ouais. Hein,
franchement, c'est une fédé. Enfin, c'est un pôle boxe qui bosse très bien. Il y a eu l'histoire. Du décès d'Alexis Vastine, les a beaucoup marqués, et en même temps, ne soyons pas hypocrites, Alexis Vastine, c'était plus un choix prioritaire de la Fédération Française de Boxe. Il faut savoir qu'en 2008, il fait sa médaille, en 2012, il perd la Fédé crie au scandale, lui aussi. Malheureusement, ils sont victimes de ça, les boxeurs français ou pas français. Ouais. Hein.
Cette année, ça a été un peu près.
Ils ont viré l'Irlandais qui a fait le tour, qui a voulu aller boxer tout le monde parce qu'il avait été injustement jeté au combat. Ouais. Je suis pas un spécialiste de boxe, mais c'était vraiment scandaleux. Mmh. Et ils ont viré le responsable pendant le tournoi, a été officiellement affecté à d'autres tâches, et ils ont viré, ils nous ont pas dit les noms des juges, mais ils ont viré tous les juges de cette session de combat. Mais pour revenir sur Vastine, ce qui l'avait le plus touché après Londres, c'était de pas avoir l'aide de sa fédération. Bon, moralement, il était très touché, il s'était vraiment retrouvé dans la galère. Donc, c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs
accepté, qu'il avait fait le jeu,
de problème. Donc, faut pas non plus dire une fédération. En revanche, John Dovey, qui est le responsable de la section hommes et femmes, mais qui est au Pôle INSEP, a fait un super boulot, ses équipes aussi. Et là, franchement, en plus, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont deux filles qui viennent boxer pour la première fois, et les deux disent, nous, on est en finale, sinon, on sera déçus. Elles sont en finale, il y en a une qui gagne, l'autre qui fait argent. Yoka, il dit, je viens pour l'or, il gagne l'or. Bravo.
Et des personnes qui font des grandes études, contrairement à l'image reçue de la boxe.
Hein. Justement,
moi, c'est une autre image, quoi.
Voilà, j'espère que la boxe va tirer profit, quand je dis la boxe, les clubs de boxe, etc., parce qu'on a trop souvent confiné. Vous avez raison de le dire, on a trop souvent confiné la boxe, j'allais dire, aux petites frappes dans une salle obscure à se taper dessus parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et ça les défoule. Il y a de ça, comme au foot, il y a des gars qui vont se défouler le dimanche matin en tapant dans blanc. Et puis, il y a une vraie notion d'éducation sportive, sportive physique, mais d'éducation, de discipline, parce que vous ne faites pas n'importe quoi. Et j'espère que en France, les clubs, les salles vont pouvoir accueillir, parce que ça se pratique. Moi, je parlais avec Sarah Ouramoun. Elle me dit, c'est super. Elle a une salle de boxe à Aubervilliers. Enfin, elle n'a pas la salle de boxe, mais elle la gère avec son mari. Et elle me disait, nous, on développe de plus en plus pour les femmes, pour les jeunes. Et donc, on se dit, bah, finalement, si tous ces gens-là, c'est pas. Parce que là, ils le pratiquent très souvent, c'est comme le judo, ils le pratiquent pour un sport loisir. Mais si vous pouvez les accueillir, si vous pouvez leur permettre de faire du sport dans de bonnes conditions, en imaginant un accueil, ceci, cela, bravo. C'est aussi la valeur des champions de faire ça. Le foot, il n'y a pas besoin, même vous ne gagnez pas l'euro, il y a quand même des licenciés. Voilà, c'est...
Alors pour revenir sur la boxe, Tony Yoka, qui avec ses 50 000 euros de récupérés grâce à la médaille d'or, a ouvert une salle à Chanteloup-les-Vignes.
Oui. Alors, lui, il est de Chanteloup. Mais par exemple, à Chanteloup-les-Vignes, il a ouvert une salle, il y a un boxing club. Mais Tony, avant, il boxait au Muro, il y a 2 ans. Parce qu'après, il est passé à Champigny, puisque Estelle habite Champigny, sa compagne. Et puis, il s'est entraîné surtout tout le temps à l'INSEP. Mais par exemple, le BC Les Mureaux, qui a été un club où il y a eu beaucoup de champions d'Europe, il y a eu de bons boxeurs qui sont devenus des pros. C'est encore une vraie galère, parce que son entraîneur de toujours, la salle, elle a été fermée, c'est des conflits avec la mairie, c'est des conflits entre boxeurs et tout. C'est très bien d'avoir mis de l'argent et d'avoir ouvert la salle à Chanteloup. En plus, c'est son club, et vraiment, il y a des jeunes qui allait au Mureau parce qu'il n'y avait pas de salle à Chanteloup. J'espère que l'engouement, ça va permettre que qu'ils s'entendent entre dirigeants, ex-dirigeants, futurs dirigeants, la mairie, parce que c'est devenu, m'expliquait l'entraîneur, c'est devenu une salle municipale où ils font de la gymnastique et tout. Nous, on a encore tous les rings, on a tout, mais voilà, ils sont tellement. Il y a eu des rivalités entre dirigeants, il n'y a plus rien. Bah, j'espère que ça va permettre ou de rouvrir ou d'animer des salles ou d'avoir de trouver de payer des éducateurs et des bénévoles pour accueillir tout ça. Alors, ça va retomber.
Étienne, donc sur les 42 médailles françaises, hein, 18 d'argent et 14 de bronze, il y a quand même deux déceptions. C'est la natation.
Ah oui.
Ouais. Hein, c'est la fin d'une époque. Et puis le total des épreuves de cyclisme sur piste. Hein, on les avait vues à Saint-Quentin. Deux, ils étaient plutôt euphoriques et puis depuis bah.
Alors pour commencer par la natation, très sincèrement, depuis les championnats de France, on le savait. Vous avez 9 athlètes qui font les minima. Alors, on pense à ce qu'on veut des minima, etc., etc. 9 athlètes, réflexion et réunion de la DTN, on y va à 28. C'est pas sérieux. Enfin, je dis ça, je sais pas si vous vous rappelez, Claude Fauquet, lorsqu'il est en 96 à Atlanta, zéro médaille.
Oui.
Claude Fauquet prend la direction de la DTN et il y avait Roxana Maracineanu qui était très bonne.
Première française championne.
Il lui manque 3 centièmes pour se qualifier, 3 centièmes pour aller au jeu suivant. Mmh. Il dit 3 centièmes, c'est 3 centièmes. On a dit 10, c'est pas 9,97. Ils sont allés au jeu la fois suivante au championnat du monde. Quand vous mettez une barre, je ne dis pas que les athlètes ne travaillaient pas, mais vous remettez une valeur, ça veut dire que celui au championnat de France, je crois qu'ils avaient lieu à Chartres, non, ou à Chartres ou à Limoges, je ne sais plus, dernier championnat de France, il y en a qui font les minima, ça veut dire qu'ils ont fait une préparation adéquate pour se qualifier. En effet, il faut se qualifier une année pré-olympique, il faut que vous ayez une préparation pour les quotas, c'est-à-dire vos championnats de France ou les tournois, le tournoi de Paris par exemple pour les judokas. Et après que vous recommenciez une préparation pour les JO, c'est éprouvant, exigeant, ça a un risque de blessure, de fatigue et tout. Mais quelqu'un qui entre dans les minima au mois de mars et qui se dit, l'autre, il était à une seconde et demie de plus, finalement, il a lissé sa préparation. Voilà, ça, c'est. Moi, je trouve que la natation, ça avait été écrit un peu partout, portait en elle. Le bazar, enfin l'idée du bazar, c'était sûr. Après, Manoudou, on peut pas. J'ai entendu des gens, il fait deux. C'est bien. La grosse surprise, c'était il y a 4 ans qu'il soit champion de la ville. Il fait deux, c'est pas une déception. Il est sur le podium, mais c'est pas une. C'est comme les gens qui disent le handball français a raté ses jeux. Non, ils font médaille d'or, d'argent. C'est exceptionnel. Donc la natation, Manoudou, il est à son niveau, donc le relais avec lui. Après, c'est les autres. J'aurais aimé que Camille Lacour fasse une médaille.
On sent que c'est la fin d'une époque.
Il va falloir qu'il se passe quelque chose.
Et puis le cyclisme sur piste, déception.
La thèse de l'accident ou du secret des Britanniques en 2012, on se disait tous, il y a un truc, parce que les Français sont bons, c'est pas possible. Derrière, ils font des médailles, Saint-Quentin. Mm-hmm. On se dit donc, il y avait un truc avec les Britanniques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un truc. Alors, c'est vrai que dans cette équipe-là, il y a des tensions, des rivalités, tout le monde s'entend pas bien. Mais bon, c'est dans tous les pays, et dans tous les sports, il y a des rivalités, des tensions, des inimitiés qui font que, justement, c'est des coachs qui gèrent ça. Généralement, quand on monte sur la piste, c'est pour. Là franchement, c'est.
Oui.
C'est, je dirais pas que c'est indigne, mais la France, pays de pistards.
Je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber.
Sur la route, on n'est pas loin, franchement.
Oui, après, il y a des places de quatrième.
Sur la route, Alaphilippe, il ne tombe pas. Mais en même temps, si Nibali ne tombe pas, ce n'est pas le podium qu'on a. Voilà. Donc, sur la route, ça a été une déception avec les filles, que ce soit Pauline Ferrand-Prévot, la route, tout ça. Voilà, bon, c'est pas le jour où ça réussit. C'est la course d'un jour. C'est comme les mondiaux de cyclisme. C'est pas toujours le meilleur cycliste de l'année. Qui gagne, donc ça arrive. Mais c'est la piste qui a été une vraie galère.
Allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale cette fois-ci.
Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre.
Nous arrivons devant les immanquables Peugeot.
Une collection de Peugeot suréquipée exceptionnelle, tant par la modernité de leurs équipements que par la qualité de leur finition, et dont les prix attestent encore une fois de la générosité de l'artiste.
Pendant les immanquables Peugeot, profitez de loyers exceptionnels et de 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garanties et d'assistance offertes sur toute la gamme. Sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur PeugeotWebstore.com.
Porte ouverte ce week-end chez Peugeot Nova Automobile, à Rambouillet et à Dourdan.
Nature et Bébati Service, entreprise située à Vieille-Église, interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry Pontin.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface.
On se rend
déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, avant de finir avec Étienne donc sur les Jeux de Rio, un petit point sur les Paralympiques qui vont se terminer ce week-end, Arnaud.
Alors ça se termine ce soir, aujourd'hui il ne reste plus que les compétitions de marathon, une finale de rugby et une finale de volley. Pour l'équipe de France, c'est la Vérizina. On a vu de très bons résultats pour les valides à Rio. Pour les Paralympiques, c'est seulement 28 médailles, dont 9 en or, ils se classent 11e. Donc au niveau du classement, c'est mieux qu'à Londres. Mais c'est simple. Au bilan du nombre de médailles, on n'a pas vu ça depuis 1964. À titre de comparaison, il y a eu en 84-186 médailles ou 140 en 88. On a moitié moins que Londres. Au classement des médailles, la Chine a 237 médailles et première donc avec 105 médailles d'or, devant la Grande-Bretagne qui a un total de 147 médailles dont 64 en or. Et surprise peut-être, l'Ukraine qui est troisième de ce classement des médailles avec 41 en or et un total de 117 médailles. Pour ce qui est du bilan par sportif, moi j'ai deux gros pouces en l'air pour Marie-Amélie Le Fur qui ramène de Rio 3 médailles, donc 2 en or et 1 en bronze. Et pour Fabien Lamiro du tennis de table qui allait chercher hier soir en par équipe une deuxième médaille d'or. Il en avait une en individuel et donc la deuxième en par équipe hier soir. Les deux plus gros pourvoyeurs d'or pour l'équipe de France.
Merci Arnaud. Juste un petit mot sur le dopage. Étienne en a naturellement à nouveau beaucoup parlé pendant les Jeux. Il y a des règlements de compte américains, russes.
C'est certain. Alors les Russes, c'est avéré. Certain que ça a pris une ampleur, évidemment poussée par les Américains, mais pas pour une rivalité comme en Russie-Amérique, mais les Américains, depuis Armstrong et même depuis l'affaire Balco, ils se sont aperçus que la population américaine, la santé, tout ça, ça les touche beaucoup. Donc, les sponsors sont toujours, les partenaires sont toujours aux États-Unis. En Europe aussi, mais aux États-Unis, c'est maintenant devenu très important parce que ça a touché le baseball, ça a touché le foot US. Avant, les gens mouraient à 45 ans, on disait, il allait au Hall of Fame, on se disait, c'est sans doute, il a chopé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Maintenant, les partenaires du sport américain sont vraiment très exigeants là-dessus. Et ils ont poussé, lorsqu'il y a eu ça, pour des raisons de rivalité sportive, c'est. On n'a pas assez noté, mais c'est le FBI, c'est-à-dire que c'est devenu la justice qui a géré ça. Aux États-Unis, depuis la création de l'AMA, qui n'a pas été créée aux États-Unis, mais qui est importante aux États-Unis, c'est depuis 1999, c'est la justice. En France, la justice, elle vient une fois que la justice sportive a fait son boulot. Aux États-Unis, c'est d'abord le FBI qui vous pose la question, et après le comité olympique qui vous écoute. Et donc, il y a eu une grosse bagarre, il y a eu plein de révélations, il y a eu une bousculade, parce que forcément, on se trouvait 3 mois avant les Jeux, ou même 15 jours avant les Jeux. Donc, tout n'a pas été bien fait, fallait sans doute pas virer tous les Russes, puis en faire revenir, donc on en a fait partie revenir, on a découvert, ça donnait un pataquès monumental, et pire que tout, tout à l'heure je vous disais que le comité d'organisation de Rio, ça n'a rien à voir avec le CIO, avait perdu de l'argent, on n'avait pas d'argent, donc avait du coup moins de volontaires, il y avait moins de ce qu'on appelle les chaperons, ce sont les volontaires qui, quand quelqu'un est désigné, ils vont le chercher tout de suite à la sortie de sa compétition. Il y avait des tas de fois où il y avait les gars qui étaient désignés, mais ils n'avaient personne, donc ils arrivaient un quart d'heure après. C'était pas volontaire, mais franchement, s'il y a eu un vrai bazar, c'était plus sur cette organisation, cette précipitation, cette communication. Ça n'a certainement pas servi la lutte anti-dopage de façon sereine à Rio.
Très bien. 30 secondes pour parler de Paris 2024. On aura les Jeux ou pas, Étienne? C'est plutôt bien parti.
Il y a un bon dossier et il y a de beaux adversaires. Moi, Los Angeles, ils ont un très bon dossier comme Paris. Tout le monde a fait sa communication encadrée à Rio, donc Paris est reparti en disant c'est génial ce qu'on a fait. Moi, j'ai vu Budapest, j'ai vu Rome et j'ai vu Los Angeles, ils tenaient le même discours. Alors, après, l'enjeu il sera autant économique que politique et pas seulement parce que Paris est une belle ville.
Très bien, merci en tout cas Étienne. Hein, à très bientôt, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Arnaud, Bernard, bon dimanche aussi. Il prépare le Paris-Versailles, hein, Bernard, dès la semaine prochaine. Hein, voilà. Merci à Victor d'avoir été aux manettes ce matin. Et puis la semaine prochaine, on retombera dans le local. Hein, on parlera du Tennis Club du Perret en Yvelines. Et puis n'oubliez pas, dans 15 jours, le retour de Tribune Foot. Merci à toutes et à tous, bon dimanche, bonne semaine. Et restez-nous fidèles naturellement, plus que jamais sur l'antenne d'Herbeux. Bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.